Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Sommes-nous à la ramasse face à la canicule? Les grosses chaleurs s'installent en France jusqu'à dimanche avec des pics à 40 degrés. La SNCF a supprimé 71 trains intercités jusqu'à lundi, craignant des pannes de climatisation. Et pour Didier Giraud, l'éleveur de bovins DGG, la France est complètement dépassée.
Aujourd'hui, s'il n'y a pas un endroit en France où on développe pas plus la climatisation, c'est parce que derrière, il y a des gens qui associent climatisation avec plus de réchauffement climatique. Et à un moment donné, les gens qui habitent aux abords du Sahara, dans le sud de l'Espagne, ils se posent pas ces questions-là, quoi. Ils se posent pas ces questions-là. Ils stockent de l'eau l'hiver autant qu'ils peuvent et ils climatisent tout ce qu'ils peuvent climatiser. J'ai écouté hier qu'on en est rendu à peindre le toit des TER en blanc.
On en est là.
Ça fait baisser. On est le tiers-monde. On est un pays du tiers-monde. Et merde qu'on fasse des rames avec la clim dedans, quoi.
Jean-Philippe, est-ce qu'on est à la ramasse face à la canicule, Jean-Philippe?
On est à la ramasse, on essaye de s'adapter. Alors, je comprends pas cette histoire de repeindre en blanc. Évidemment qu'il faudrait peindre en blanc. Par définition, les trains, ils sont pas sous les arbres, en fait. Ils sont en plein cagnard. Et quand on reproche, là, à la SNCF de retirer 71 trains, je crois, intercités, parce qu'ils risquent d'avoir des problèmes de climatisation, je peux comprendre, vu ces boîtes métalliques qui sont en plein cagnard. Et si.
On aurait peut-être pu y penser avant.
Mais s'ils le font pas, qu'est-ce qu'on va dire, nous, lundi prochain, en disant, oh là là, ce week-end, vous avez vu ces pauvres familles qui n'avaient pas de clim dans les trains. Donc on s'adapte, voilà, on fait s'adapter. C'est comme les personnes qui ont.
Comment pour s'adapter les gens qui devaient prendre ces 71 trains intercités?
Eh ben déjà, ils remercient la SNCF de pas les avoir mis en situation de danger de surchauffe. Et ils essaient de trouver un moyen alternatif. Et en effet, repeindre en blanc, c'est comme les gens qui prennent des voitures noires et qui mettent la clim à fond à l'intérieur. La voiture noire qui est restée 3 heures en plein soleil.
On devrait acheter des voitures blanches.
La planète se porterait mieux si toutes les voitures étaient blanches.
Évidemment. Mais t'es un dictateur en fait.
Je suis pas un dictateur.
Attends, ce qu'on veut quoi.
Si je veux une voiture rose, j'achète une voiture rose.
On fait ce qu'on veut, mais moi je trouve, voilà, bravo à la SNCF d'avoir pris des mesures de précaution. Parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si des familles avaient dit.
On a qu'à enlever tous les trains pour le sud. Parce qu'on sait que quand même, quand il fait chaud, les trains pour le sud, c'est les rails, ils gonflent. Alors donc souvent il y a plus de retard. Ce qui fait plus chaud a priori dans le sud.
Mais alors vraiment se confiner en fait, ça va être la seule solution parce qu'on nous dit dehors, il y a pas de fête de la musique, il y a pas d'activité sportive, on arrête toute activité à l'extérieur, on reste à la maison, on peut pas bouger en fait, on peut pas prendre le train, on peut pas prendre le RER non plus. Alors je vous le déconseille parce que c'est vraiment un miracle qu'on tombe sur un RER où il y a la clim et quand il y a pas la clim
olfactivement.
Plus et si on le prend en fin de journée, il fait 50 degrés, mais alors littéralement, c'est pas une vue de l'esprit. Le métro, alors ça, pareil, c'est un coup de bol si on tombe sur un métro.
Mais pas toutes.
Donc on est, complètement. On n'est pas à la hauteur.
On n'est pas à la hauteur pour venir. C'était une étuve.
Et on n'est pas à la hauteur quand il fait chaud. Donc c'est pas possible en fait.
Moi surtout, la réalité, c'est que là, ce dont on est en train de discuter, c'est des solutions pour s'adapter.
C'est ça.
Ok, mais attendez. En réalité, le problème, c'est que on se retrouve avec donc à Paris maintenant des températures qui sont hallucinantes, c'est-à-dire que là dans les jours qui viennent on va se manger des 40
degrés. C'est pas la
faute
du gouvernement.
Donc à un moment, mais pour de bon, la question de comment on ne cherche pas à s'adapter mais comment on cherche à lutter contre ce réchauffement climatique, va falloir tous collectivement qu'on se pose la question et qu'on pousse dans le sens de solutions qui portent cela, parce que ça sera intenable, ça va devenir intenable. Honnêtement, si on commence comme alors je l'entendais là, mais qu'on commence à se comparer avec des températures sahéliennes, mais on marche sur la tête. Donc il faut bien comprendre que ce qui se profile va être un calvaire. Terre va on est en milieu tempéré, ça va devenir un calvaire. Et donc politiquement, se pose la question de comment on affronte Non, on ne cherche pas simplement à s'adapter, mais on cherche effectivement à lutter contre ce réchauffement. Là, on est en train de discuter de comment on s'adapte, la végétalisation.
Il va falloir s'adapter
mais,
quand même.
Bah, il va
la clim, falloir. Il faut la clim partout. Voilà,
mais la
c'est
clim,
tout.
C'est pas une solution.
Mais non, c'est une solution de confort.
Mais on rejette de l'air chaud à l'extérieur.
Et alors, on va crever de chaud.
On consomme de l'électricité. On consomme.
Mais alors, on fait quoi?
Consommer de l'énergie, c'est pas bon pour la planète.
Tu te déplaces pas.
Si on veut éviter les problèmes climatiques, il faut consommer le moins possible d'énergie, et c'est exactement l'inverse du climatique.
Attention, l'électricité qu'on produit en France, elle est décarbonée. Mais oui. C'est les centrales nucléaires, ça fait pas.
Oui, mais
ça fait pas augmenter le climat.
Mais tu peux pas en avoir plus.
Quand on met la clim, on pollue pas plus.
Oui, tu peux.
Tu peux pas créer chaud. Dans les zones urbaines, on peut faire monter d'un ou deux degrés, je veux bien. Mais la maison climatisée, elle fait pas augmenter le climat.
Moi, je te parle pas de ça. Je te parle tout à l'heure, on va avoir une discussion sur, par exemple, la surconsommation, sur le consumérisme. Je te parle, moi, de mode de production et de mode de consommation. Oui. C'est ça, en fait, la question. Parce que c'est pas une fatalité. Et que si on se prend 2 degrés de plus, ça va être une catastrophe.
Et ben donc, on fait quoi? Et
est-ce ben que, justement.
Est-ce que peindre les toits des TGV en blanc,
oui,
c'est s'adapter.
Moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais je vous dis, ça consiste à s'adapter. Oui. Et il ne faut pas simplement s'adapter, il faut lutter contre le réchauffement climatique en ayant des actions extrêmement fortes sur les modes de production.
Sauf que depuis 30 ans, dès qu'un politique dit on va mettre de l'argent ou orienter les politiques vers le changement climatique, l'adaptation, tout le monde le dit, n'importe quoi.
Ils n'ont aucun courage.
C'est quoi le plan? Regardez, vous êtes contre la voiture électrique, par exemple.
Sur la voiture électrique, ça a été démontré. Il y a même un auditeur qui l'a évoqué. Le cobalt, le lithium, l'activité minière, c'est n'importe quoi.
Et l'éducation nationale. Christophe nous écrit à l'instant. On est en pleine canicule, si vous voulez rire. Dans le collège de ma fille du côté de Toulouse, ils ont décidé d'annuler tous les cours, tous les après-midi jusqu'à mardi prochain, pour que les élèves ne soient pas l'après-midi en cours.
Franchement,
sauf qu'on n'a pas adapté les horaires des cars scolaires. Donc les gamins restent à l'étude jusqu'à 17h en attendant que le car arrive.
C'est climatisé.
Donc ils sont quand même au chaud, mais ils ne sont pas en cours.
Dans les établissements scolaires, il y aurait un vrai sujet. Parce
que il y a un vrai sujet.
Quand il fait 34 degrés dans les salles, c'est un hammam, tout simplement.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, combien de fois regardez-vous votre téléphone au travail? Selon un sondage IFOP, 90% des dirigeants d'entreprise se disent préoccupés par l'addiction au smartphone de leurs salariés. Écoutez le témoignage de Louis et Aril, deux conseillers bancaires jamais loin de leur portable.
Ils sont un peu plus addicts, mais moi, c'est 4-5 fois. J'essaie
5
de
à 10, voire plus 10 que 5. Dès qu'on va avoir un temps libre, ou je vais avoir un moment de creux, c'est le téléphone qui va revenir dans la main, alors que je pourrais m'avancer sur d'autres choses. C'est vrai que l'appel perso, le SMS perso qui va arriver, on va vouloir regarder, il va déconcentrer, et après on va plus être dedans, et même en face de nous, du client qu'on peut avoir après, c'est plus pareil, je trouve.
Alors, combien de fois regardez-vous votre téléphone au travail, Yael Mellul? Vous le regardez pas beaucoup, Yael, votre
c'est
téléphone
vrai ou pas
pendant l'émission.
Bah,
c'est vrai,
je vous félicite. Mais oui, parce que je trouve ça assez inconvenant, en fait, pour qu'on nous regarde, quoi. Mais le problème, c'est que si je le mets là, je vais avoir la tentation de le regarder.
Oui.
Et c'est pas bien, en fait.
Non,
voilà. Mais dès qu'il y a une pause, ouais, je regarde, évidemment. C'est une véritable.
Mais vous regardez quoi?
Je regarde. Alors, déjà, si j'ai des mails, si j'ai des messages, des textos, machin.
Oui. Du perso, quoi.
Du perso.
Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux?
Si, je fais un petit tour rapide sur
un petit site
sur
de shopping,
X.
Acheter une paire de chaussures.
Non, pas peut-être. Ouais. Si j'ai déjà,
d'accord.
Non, mais il faut. C'est une addiction. C'est une vraie addiction, mais c'est une addiction qui est collective. Tout le monde devient addict.
Benjamin Hamard, est-ce que ça vous arrive en classe de regarder votre portable quand vous donnez des cours à vos élèves?
Alors le problème, c'est qu'on a sur maintenant l'application Pronote, que les parents d'élèves et les élèves connaissent bien, on a des tas de trucs qu'on fait sur Pronote. On fait l'appel sur Pronote.
Ah
oui.
Et puis, mais avec votre téléphone?
Avec le téléphone, bien sûr. D'accord. Parce que le réseau ne faites pas confiance au réseau informatique du lycée.
Oui, non, c'est vrai.
Donc, vous le faites avec votre téléphone. Et puis, vous pouvez avoir des tas de messages qui sortent, des rapports d'incidents. Donc, sur la plateforme professionnelle, on peut être sollicité de plein de manières. Vous saisissez le cahier de texte sur Pronote. Bon. Moi, par contre, ce que je fais, mais je le fais de manière générale, pas simplement pour la vie professionnelle, j'ai supprimé plein de notifications.
Ah oui, ça c'est oui, bon, ça oui.
Et ça, franchement,
c'est ouais.
Parce que quand vous avez un pop-up qui sort sur un mail, vous voyez, vous attendez la réponse, que ce soit la mutuelle, que ce soit des tas de trucs, c'est vachement tentant. Dès lors que moi j'ai supprimé les notifications, je n'ai plus qu'à faire l'effort, moi, de ne pas y aller, et ça, c'est plus facile. Par contre, quand j'avais
des retourner son téléphone aussi, ça c'est
et
une bonne chose.
Et retourner le téléphone, je le fais moi aussi.
Exactement.
Et ça marche plutôt bien.
Et vous, Estelle?
Oui, OK. Non, mais je le regarde, mais parce que parfois j'ai des, vous voyez, j'ai des auditeurs qui m'envoient messages, voilà, qui corrigent peut-être une information erronée.
C'est un outil de travail.
J'ai ma mère aussi qui m'écrit. Alors, c'est important. Il faut que je réponde à la minute. Vous voyez, bon, Jean-Philippe Doux.
Moi, je vais réagir plutôt en tant qu'employeur, c'est que j'ai des salariés que je paye pour un certain travail en librairie. Et je me rends compte, et je le sais, et voilà, il faudrait être naïf de croire l'inverse, que sur les 35 heures, il y a une partie de ces heures que je paye qui ne sont pas utiles au travail.
Oui. Mais personne ne travaille 35 heures in extenso, en fait.
Mais oui, c'est vrai, mais ça l'est de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, la part du privé dans ces 35 heures augmente par le téléphone, et du coup c'est un vrai problème pour l'employeur, c'est-à-dire qu'on est passé de 39 à 35 heures avec Martine Aubry, et avec le portable on est passé de 35 à 30 heures à peu près. Il a fallu qu'on fasse la remarque d'ailleurs à nos salariés en disant voilà, merci de ne pas trop regarder votre portable.
Ça veut dire quoi, pas trop?
C'est pas trop, c'est-à-dire que par exemple quand on est à l'accueil d'une librairie, c'est de bien dire bonjour et regarder les gens
plutôt que...
Vous vous rendez pas compte en fait, allez dans les magasins, allez. Moi d'ailleurs je fais remarquer.
J'ai jamais vu un vendeur sur son téléphone.
Moi j'en vois et je leur fais remarquer. D'ailleurs, j'insiste sur le bonjour pour qu'ils lèvent la tête quand même un minimum. Mais c'est vrai. Et regardez les caissières, par exemple. Dès qu'elles ont passé, pendant que vous cherchez votre carte bleue ou votre téléphone pour payer, elles scrollent, elles sont sur leur portable.
J'ai jamais vu ça.
Mais si,
moi j'ai vu des clients très indélicats, c'est-à-dire ils arrivent à la caisse, ils sont au téléphone, sont sur leur portable, et donc en fait, je trouve ça insupportable pour la personne qui est devant et la vendeuse ou le vendeur.
C'est horrible. Oui.
Mais j'ai jamais vu un vendeur ou une vendeuse avec son téléphone.
De plus en plus, et notamment les plus jeunes, parce que ça fait partie de leur réflexe. Mais de la même façon que le privé arrive dans le travail, il y a aussi le travail qui va dans le privé, parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes aussi sur votre portable.
Absolument.
Avec vos mails pro, avec les WhatsApp professionnels, etc.
Ça n'existe pas.
Évidemment. Voilà, on est d'accord.
Les GG ce matin sur RMC. L'annulation du concert de LFI pour la fête de la musique est-elle logique ou choquante? La préfecture de Paris a pris sa décision. La France Insoumise n'organisera pas de concert Place de la République dimanche à cause du risque avéré de troubles à l'ordre public. Et Flora Guébali, l'entrepreneur des GG, se réjouissait de cette résolution.
La fête de la musique, ça a été pensé comme un événement de concorde, pas de discorde, où les Parisiens et les Français, mais là, il se trouve que ça se passe à Paris, font la fête ensemble dans les rues. C'est interpartisan, c'est intergénérationnel. C'est un moment où on fait de la musique et on oublie que on se déteste, en fait. C'est justement censé être un moment où on s'aime tous et où on fait la fête et on n'est pas au courant de toi, tu votes pour qui, toi, tu votes pour qui, toi, t'as quel âge, toi, c'est quoi ta religion, c'est quoi ta confession. Non, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on est citoyens français, qu'on est républicains et qu'on se réunit tous autour de la musique. Qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous gâchent la fête. Voilà, comme d'habitude, LFI gâche la fête. J'en peux plus.
Yael Mélu, est-ce que vous êtes d'accord avec Flora Guébali? C'était pas une bonne idée d'organiser la fête de la musique LFI, quoi.
Bah non, parce que c'est la fête de la musique, c'est une fête en fait. C'est pas un meeting politique. Et inévitablement, ce qu'avait prévu de faire la France Insoumise aurait forcément tourner en meeting politique. Enfin, c'est une évidence. Je veux dire qu'il y aurait eu des discours, des slogans, des drapeaux. Ben non, voilà, je suis d'accord.
Comme une fête de l'humain, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Absolument. Ben non, en fait.
Mais là, c'est la fête de tout le monde, en fait.
C'est la fête de la musique, c'est la fête pour tout le monde, pour tous les Français, pour tout le monde. C'est pas la fête de la France insoumise. Je sais pas, ils voulaient faire à Bastille ou à République, République. Enfin, faut comme, vous imaginez la place de la République pour la France insoumise? Ben non. C'est à tout le monde.
D'accord. Ça vous aurait gêné, Benjamin, justement, cette fête de la musique LFI?
Bon, moi je suis loin d'être un membre de la France insoumise, mais franchement, je vois pas le problème là. Je vois pas pourquoi on interdit. Alors c'est vrai que la fête de la musique, effectivement, n'a pas de connotation politique, mais on est dans une année électorale. Qu'il y ait des initiatives politiques en même temps que la France insoumise, moi je pense que, enfin, tel que c'était présenté, c'était avant tout un concert. Il y allait pas.
Enfin, le RN aurait voulu faire ça, ça aurait été interdit aussi.
Qui?
Le RN aurait voulu faire ça, ça aurait été interdit aussi.
Je vous le dis. Le RN disait, on fera Place de la Concorde, un grand concert.
Ça me choquerait.
Moi,
je ne fais pas partie de ceux qui mettent le Rassemblement National au même titre, sur le même pied d'égalité que LFI ou que les autres partis. Mais en l'occurrence, si c'est présenté comme une comme ça me semble l'être. Un concert pendant la fête de la musique, ça me choque pas. Oui. Je vois pas pourquoi on l'interdit. Ça, pour le coup, ça crée de la crispation, de l'interdire. Ça crée de la tension. Honnêtement, je.
Surtout, il le savait peut-être aussi. Enfin,
peut-être.
Les filles, c'est sans doute. Il savait peut-être que ça allait être interdit.
C'est sans doute, mais on peut. Mais il y a pas. Moi, je vois pas. Enfin, interdire un concert, oui. Je comprends pas pourquoi on le fait. Voilà. Et quand derrière la France Insoumise, pour le coup, pointe une commande politique, je pense qu'on peut pas. Là aussi, la contredire, non. C'est bien une commande politique. Et je trouve encore, parce qu'attention, souvent on dit attention, oui, on faut pas mélanger le sport et la politique. Par contre, la musique et la politique, on peut, et ça fait partie de la démocratie, et c'est pas un problème.
Oui, mais tu peux avoir des chanteurs engagés à gauche qui font un concert, il y a pas de problème, sans dire c'est un concert LFI en fait, tout simplement.
Non, mais c'était une initiative.
C'est le marketing en fait.
Excusez-moi, mais pardon, mais quand même, la France Insoumise fait partie des partis politiques qui donnent une importance à la culture. C'est pas le seul. À gauche, il y en a d'autres, etc. Donc,
à droite qui aussi. Porte
hein, oui, mais enfin, pardon, je suis.
Non, c'est
mais,
pas la même culture, peut-être.
Oui, c'est pas la même culture, mais ils ne donnent pas la même importance, y compris dans les programmes sur la culture. Donc, c'est pas choquant, c'est pas déconnant. Et moi, en tout cas, personnellement, je ne comprends pas l'interdiction.
Pour moi, on n'interdit pas un concert, on interdit une tribune, parce que entre chaque artiste, évidemment, il va y avoir des déclarations, etc. Et pour moi, c'est une privatisation d'une fête nationale. C'est une fête nationale qui doit être apolitique, qui doit être œcuménique, parce que à ce moment-là, place de la Concorde, il peut y avoir aussi les jeunes chrétiens qui organisent leur concert.
Okay. Le 1er mai, le Rassemblement National a un défilé.
Oui, mais c'est la fête du travail. Il y a un côté beaucoup plus politique que là.
Non, c'est la fête des travailleurs. C'est pas la fête du travail, c'est Pétain. C'est la fête des travailleurs.
La fête des travailleurs. Mais comme quoi, et parce que ça a été.
Attends, la fête de la musique, c'est pas la fête nationale. La fête nationale, c'est le 14 juillet. Non, j'ai dit, mais je veux dire, ça a 30 ans, c'est Jack Lang, quoi. C'est pas non plus l'histoire de la France.
C'est une fête nationale, c'est le moment où tous ceux. Et d'ailleurs, Jack Lang, au départ.
Saint-Valentin, c'est une fête nationale, tu vois.
Aller dans les rues pour jouer, voilà. Et c'est ce côté, justement, apolitique. Il n'y a pas de billets à acheter, tout le monde peut assister à tout, et voilà. Et moi,
là non plus, c'était pas payant, j'imagine.
Oui, mais c'est une tribune politique pour moi. Et donc,
il y a de la musique partout pendant la fête de la musique.
Oui, mais ce qui a été surtout retenu pour l'interdiction de cette pour ce meeting politique, c'est.
Jean-Luc Mélenchon, elle n'est pas chantée, vous voyez.
Non, mais pas Jean-Luc Mélenchon, mais il y a certainement d'autres personnalités politiques.
Ils auraient dû être clair et dire c'est un meeting politique.
Voilà.
Place de la République avec des artistes.
Et surtout, ce qui a été retenu. Ce sont les risques avérés de troubles à l'ordre public.
Mais il y aura des meetings politiques dans la rue, du RN, de LFI pendant la campagne et de tous les partis. Ils vont privatiser la place de la République, la place de la Concorde, le Trocadéro avec François Fillon. Ça arrive régulièrement que les partis politiques privatisent l'espace public.
D'ailleurs, et Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting à Saint-Denis où il y avait beaucoup de monde, d'ailleurs le week-end dernier.
Je pense que ceux qui veulent, justement, qui reprochent à LFI d'hystériser le débat, etc., feraient bien eux de ne pas donner justement l'occasion de faire ça. C'est plus simple, c'est plus intelligent de dire ok, faites-le. Parce que je ne pense pas que ça aurait été un meeting politique. Je pense que c'est pensé comme des musiciens qui chantent, etc. et quelques prises de parole. Mais je pense que ça aurait été avant tout un concert.